Salut Sophie.
Salut Florian.
Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On se réunit chaque semaine pour parler de nos découvertes ornithologiques des 7 derniers jours. Comment ça va Sophie ?
Eh ben écoute, pas mal du tout. Je me suis même intéressée à de la physique cette semaine, tu vois. Ça change.
Ah, incroyable. Incroyable. On parle donc de physique dans le monde des oiseaux, c'est
on
ça.
On ne peut rien te cacher.
Incroyable. Moi, je vais parler d'un oiseau qu'on connaît bien, qui est le balbuzard pêcheur.
Oh oui.
On en a quelques belles choses à dire.
Mm-hmm.
Et aussi une sorte de controverse qui a eu lieu au Pays de Galles. On y reviendra, moins que tu veux que je démarre de mon côté par parler
Balbuzard pêcheur. Vas-y, parce que la controverse,
eh bien,
ça m'intéresse. Vas-y.
Ah, bah, la controverse. Bon, d'abord, déjà parler du balbuzard pêcheur.
Ah, bah oui.
Rapace diurne, bien évidemment. Mm-hmm. Comme son nom l'indique, c'est un oiseau qui est pêcheur. À quoi il ressemble ? C'est un oiseau blanc. C'est un oiseau un peu marron sur le bout des ailes. C'est un oiseau assez joli, avec une tête barrée, avec un petit liseré noir qui traverse une partie de la tête. Un rapace assez joli en somme, et surtout un rapace qui, mine de rien, se trouve un peu partout dans le monde.
Ah bon ?
Puisque la répartition mondiale du balbuzard pêcheur, c'est tous les pays du monde.
Wow.
Enfin, tous les pays, tous les continents du monde, excepté l'Antarctique. Puisque on le trouve en Amérique, on le trouve en Europe, on le trouve en Asie,
mmh.
on le trouve en Afrique, et on le trouve sur les pourtours de l'Océanie. Alors en France, finalement, c'est un peu le copier-coller de la répartition internationale, à savoir que on a pas mal de présence de l'espèce un petit peu partout dans l'Hexagone, bien que on ait beaucoup moins de certitude sur la nidification de cet oiseau. On a beaucoup de passages, mais on n'a pas forcément beaucoup d'indices de la nidification de cet oiseau. On en a, grosso modo, deux clusters assez importants.
Mmh.
Un cluster qui se situe sur les côtes corses, donc tout autour de l'île de Beauté, et un cluster qui va se retrouver vers le centre de la France. On va être sur des régions proches de la Loire, de la Bourgogne, plus particulièrement du nord de la Bourgogne, mais aussi en remontant un petit peu sur le bassin parisien. Et puis, on a deux zones où l'oiseau n'est pas trop présent, c'est les Alpes du Sud et les Pyrénées pour la France. Voilà, je m'arrête pour parler du balbuzard pêcheur. Quoi qu'il en soit, c'est un oiseau qui voit ses effectifs augmenter depuis un sacré bout de temps, puisque les programmes de protection et de réintroduction de l'oiseau font leur œuvre, et ils font leur œuvre aussi bien en France que dans d'autres régions du monde. Et on va s'intéresser à nos voisins britanniques, pour être plus précis, parce qu'il faut savoir que ce cher balbuzard a fait son grand retour dans le pays de Galles, et plus précisément au sud du pays de Galles, après plus de 200 ans d'absence,
oh,
qui est absolument gigantesque.
Incroyable.
Et là, on pourrait se dire, oh là là, incroyable, révélation de fou, tout le monde est super content,
mm-hmm.
Sauf que non.
Ah.
Et sauf que non,
eh bien,
pourquoi
alors ?
Parce que l'oiseau a été vu sur un espace qui avait été à l'origine prévu pour accueillir un festival de musique, le Green Moon Festival, qui a lieu chaque année. Et le gouvernement a dépensé pas moins de 4 millions de livres sterling pour pouvoir acquérir la zone où le balbuzard a été aperçu. Alors, le gouvernement n'a pas acquis la zone une fois que le balbuzard a été vu. Le gouvernement a d'abord acquis la zone et, manque de chance pour eux, le balbuzard a été vu sur site, c'était l'année dernière. Et donc forcément, décision du ministère qui a été statuée en ce 29 janvier, qui disait tout simplement qu'il fallait annuler le projet, que ce projet serait annulé
ah
en
oui.
faveur de la conservation de cette espèce qui est extrêmement importante pour la biodiversité, mais aussi qui, par les différentes annexes qui existent, comme en France, on a la directive oiseaux, au Royaume-Uni, ils ont une autre directive, et bien forcément, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les espèces menacées. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de zone de non-droit qui va être installée 750 mètres autour de l'endroit où a été vu l'oiseau en 2023. Alors, ce festival, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que c'est l'un des points les plus importants pour le Pays de Galles, et notamment le Pays de Galles du Sud, qui, malheureusement, n'est pas dans une très très grande bonne situation économique. Et donc, forcément, cette nouvelle a été assez mal accueillie par les directeurs généraux du festival, qui, même s'ils étaient assez contents de voir l'oiseau, se sont dit... Oui, mais bon, oui. Nous, on a besoin quand 4 même
millions
de l'espace,
de livres quand même, les gars.
Donc, il va falloir, à un moment donné, statuer. Ils n'étaient pas spécialement trop embêtés par la situation lorsque l'oiseau a été aperçu pour la première fois, mais depuis que le gouvernement a rendu, justement, son avis... Eh ben, c'est un petit peu plus compliqué parce que il faut maintenant trouver de nouveaux endroits et de nouveaux arguments. Alors, il y a plein de choses qui pourraient être faites vis-à-vis de ce festival, sachant que ce festival existe déjà ailleurs. Le Green Man, en fait, festival qu'il voulait faire, c'était un espèce d'encore du grand festival qui avait lieu chaque année. Donc on aurait le festival principal et festival qui aurait lieu à Millstone Farm. Ça, c'était le second festival qui était prévu à ce moment-là. Donc voilà, 4,5 millions d'euros pour 4,5 millions de livres sterling qui sont un peu partis en fumée à cause de cet oiseau. Le gouvernement s'est bien évidemment défendu en disant « Bah oui, mais on ne pouvait pas savoir qu'il allait avoir un balbuzard pêcheur qui allait venir ici. »
Qu'est-ce qu'il faisait là quand même ? Sérieusement, vous lui avez demandé ses papiers je sais pas.
Donc voilà, c'est une histoire qui en appelle une autre et qui en appelle une autre bien plus sympathique parce que effectivement, on a parlé de cette histoire du Pays de Galles qui a fait un petit peu parler d'elle sur les réseaux, notamment de par son traitement médiatique, parce que au lieu d'avoir l'information du « Oh là là, c'est la première fois qu'on voit un balbuzard pêcheur depuis 200 ans au Pays de Galles du Sud », c'était « Un oiseau fait péricliter un projet à 4,5 millions de livres sterling
». J'imagine que ça a été tourné dans l'autre
sens. Effectivement, pas forcément une très très bonne communication. Cela dit... En 2023, on a eu une autre première. Et cette première, elle se trouve cette fois-ci, en Irlande, puisque un balbuzard pêcheur a été vu pour la première fois en train de nicher depuis 200 ans également. L'oiseau a été vu pour la première fois depuis 200 ans. Il faut savoir que comme la très très grande majorité des rapaces, ces oiseaux étaient chassés à l'époque. Apparemment, il y aurait même des collectionneurs d'œufs qui récupéraient les œufs dans les nids des balbuzards, ce qui a entraîné évidemment l'extinction de l'espèce à partir de 1916. Il y a des oiseaux occasionnels qui ont été aperçus en train de migrer. Pourquoi ? Parce que aux alentours des années 1950-1960, on va avoir l'idée de réintroduire le balbuzard d'abord en Écosse, puis par ruissellement, l'oiseau va par la suite conquérir le Royaume-Uni, puis un peu le Pays de Galles et bien évidemment l'Irlande. Et on se retrouve aujourd'hui avec une population qui se rétablit lentement dans l'Écosse. On n'a pas des chiffres, j'ai pas trouvé des chiffres très récents. J'ai juste 1991 où on comptait 71 couples reproducteurs. Donc en l'espace de 40 ans, on a quand même fait des sacrés bons en avant. Et donc forcément, cette nouvelle a donné l'idée à certains ornithologues amateurs de se dire si on a des oiseaux qui peuvent revenir chez nous sur site, pourquoi ne pas leur créer des conditions parfaites. Et c'est pour ça qu'il y a un groupe de personnes qui s'occupent désormais de réaliser des plateformes de nidification pour les balbuzards pêcheurs. Les plateformes de nidification, c'est en gros des troncs d'arbres sur sur lesquels on pose eh bien, une plateforme à environ 10-15 mètres de hauteur pour que les oiseaux puissent nicher. C'est partie intégrante de ce qu'on appelle le Pembrokeshire Osprey Project qui a lieu à nouveau au Pays de Galles. Et toutes ces initiatives, eh bien, donnent beaucoup d'allant parce que, bah, on espère que le balbuzard pêcheur va redevenir nidificateur au sud du Pays de Galles. Mm. C'est déjà un petit peu le cas vers le nord, mais au sud, et c'est pour ça que l'oiseau a causé pas mal de petits problèmes avec ce festival de Greenman. Au sud, pour l'instant, l'oiseau n'est pas encore présent, même si l'environnement y est très favorable pour lui. Voilà. Pour notre balbuzard pêcheur qui aura causé bien des petites histoires.
Mais c'est bien de faire la une des journaux quand même. Après, il n'y a pas de bad buzz, hein, tu sais, il n'y a pas de mauvais buzz, on l'a dit.
Ah bah non, ah non, non, clairement pas.
Il a compris.
Le projet donc qui est mené par certaines personnes dans le sud, et notamment Kevin Phelps qui a construit donc des plateformes, s'élève à 25 000 livres sterling pour l'instant, puisqu'il a construit 5 sites, donc 5 x 5, 25, mm-hmm. 25 000 livres sterling, et on espère peut-être l'arrivée de certains oiseaux d'ici quelques temps, voilà.
Ah bah c'est bien ça, c'est une bonne nouvelle. Bon moi, plutôt que des nouvelles d'oiseaux qui disparaissent, un nouvel oiseau qui revient sur son aire de répartition originelle, c'est plutôt facile. Ça me plaît
ouais,
bien.
Ouais, et puis c'est une histoire, je ne savais pas que le balbuzard était de retour en Irlande, c'est en faisant des recherches pour cet article que j'ai trouvé assez intéressant et assez, assez fascinant de par la tournure qu'il a été, de la manière dont il a été tourné, que j'ai découvert effectivement que le balbuzard faisait également son retour en Irlande. J'ai parlé du statement, c'est-à-dire de la délibération qui a été donnée par le ministre de l'économie du Pays de Galles en date du 29 janvier 2024. En réalité, c'est au 14 septembre que ça a été voté, et c'est le 29 janvier que la nouvelle a été rendue publique. Voilà.
D'accord.
Petite rectification vis-à-vis de ce qui a été dit.
Ça, c'est la loi, ça prend un peu de temps toujours.
Exactement. Et apparemment, plus de 300 couples reproducteurs aujourd'hui, puisque j'ai fait en même temps des recherches.
Ça fait beaucoup.
Et on a plus de 300 couples reproducteurs de balbuzards pêcheurs sur l'entièreté du Royaume-Uni.
C'est pas mal, donc, franchement, c'est bien d'avoir cette évolution.
Ce qui est quand même plutôt pas mal. Et nous, je sais plus combien on en a en France, mais ça augmente d'année en année. Je crois qu'on est à peut-être un peu plus de 120, c'est un peu plus de 140. Je sais pas si la LPO a des chiffres intéressants. Ouais, au niveau des couples territoriaux, on doit être compris entre 100 et 120, je dirais, au niveau des évolutions, parce que j'ai juste les chiffres de 74 à 2019. Les chiffres de 2019 étant assez proches de 100, je pense qu'on peut assez facilement affirmer qu'il y a eu encore une augmentation,
plus ou moins, oui.
Très légère, mais une augmentation quand même, de la présence du balbuzard pêcheur, oiseau migrateur. J'ai oublié de le préciser, qu'on ne voit en France qu'à partir du printemps et jusqu'à l'automne.
C'est ça. Un superbe oiseau avec un œil absolument incroyable, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu l'as précisé, mais
oui, absolument,
il a des yeux, bon sang. C'est...
Moi, je fais des descriptions d'oiseaux un peu nulles. Je suis désolé. et non, heureusement que les miniatures du podcast sont là pour montrer à quoi ressemblent les oiseaux.
C'est toujours difficile de décrire un truc comme ça, parce que c'est vrai que... Enfin, tu peux décrire la coloration, peut-être plus ou moins, mais c'est tellement détaillé, un oiseau, il y a tellement des tas de plumes, de tas de couleurs différentes, il y a des reflets, il y a des... Enfin, c'est difficile,
c'est
quand
ça.
Même. Hein.
C'est ça.
C'est compliqué.
Mais c'est vrai que là, avec la description que j'ai dit, on aura pu dire, bah, ok, c'est quoi vous nous inventez, là?
C'est un rapace. Voilà. C'est
une citelle torche-peau qui s'est déguisée, mais pourquoi? On sait pas.
C'est un peu plus gros qu'une citelle torche-peau, quand même.
Un petit peu plus gros. Grosse citelle torche-peau.
Sacré citelle. Je le verrais bien la tête en bas aussi, tiens. Faudrait regarder. Comme la citelle torche-peau.
Citelle pêcheuse, c'est un concept, c'est un concept. Et oui, un œil jaune, qui, je crois, si mes souvenirs sont bons, indique la période de la journée où il chasse. Il me semble que j'avais lu quelque chose de ce type-là.
Ça, c'est un truc qui fonctionne pour les chouettes et les hiboux, et encore pas pour tous. Mais pour les oiseaux, ça marche pas pour tous les diurnes, c'est pas tout le temps. Parce que c'est pas... C'est plus un œil, parce que c'est plus un œil qui va être adapté à l'eau, justement, et au fait d'éviter d'avoir des reflets dans l'eau quand il pêche.
Ok.
Au final.
Intéressant.
Mais c'est vrai que pour les chouettes et les hiboux, en fonction de la coloration de l'iris, vous pouvez savoir s'ils chassent plutôt dans la journée ou dans l'après-midi, plutôt au crépuscule ou à l'aube, ou alors plutôt pendant la nuit, comme la fameuse chouette effraie qui a les yeux quasiment totalement noirs. Voilà, qui chasse de nuit donc. Mais c'est, ça marche pas forcément pour toutes les espèces, il y a quelques exceptions. Vous faites pas avoir.
Comme d'habitude, en ornithologie, il y a toujours des exceptions. Toujours des exceptions. Mais c'est intéressant, mais j'ignorais ça. J'avais lu ça il y a très longtemps. Merci beaucoup pour la petite précision.
Mais avec plaisir. Si tu veux bien, on peut passer au sujet numéro 2.
Ah mais avec plaisir, donc on parle de physique.
Oui, alors rassurez-vous, on est toujours sur des oiseaux, parce que bon, c'est quand même le sujet du podcast. Et je vous emmène aujourd'hui du côté de l'université de Chiba, au Japon. Avec une équipe qui cette année a publié un papier sur le vol des chouettes et des hiboux. Alors, on a fait plein de choses.
Quelle transition incroyable,
n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, mais ça a été calculé, en fait. Tu l'as pas dit, mais on s'est concerté, c'est pour ça.
Sachez que d'habitude, avant l'émission, on prend acte du sujet de l'un et de l'autre, et c'est la seule émission où on ne l'a pas fait, voilà. Donc c'est vraiment involontaire.
Exactement. Non, mais bien joué, hein. C'est bien.
Ah, merci. C'est le talent,
c'est ça. Donc voilà, on va parler de chouettes et de hibou. Et cette équipe s'est intéressée plus précisément donc au vol silencieux des chouettes et des hiboux. Alors, vous en avez entendu parler certainement. Si vous avez entendu les explications, vous avez dit « Ah oui, alors les chouettes et les hiboux, ils volent très silencieusement, pouvoir tomber silencieusement sur leur proie parce que c'est leur manière de chasser, etc. » Mais on ne vous a certainement jamais expliqué exactement la mécanique de ce vol silencieux. Comment est-ce qu'ils font pour voler sans un bruit? Alors on vous a dit oui, alors c'est parce que les plumes sont un peu plus douces, on vous a fait toucher peut-être une plume de chouette ou de hibou, et vous avez certainement remarqué qu'elle était effectivement très douce. Et on vous a dit que du coup, le frottement des plumes ne se faisait pas entendre pendant le vol de l'oiseau, et peut-être que le frottement du vent sur les plumes ne se faisait pas entendre non plus. Enfin bref, on a essayé de vous sortir une petite explication comme ça. En essayant de se débrouiller un petit peu, parce que, en vrai, on n'en sait rien. C'est ça qui est embêtant.
Ok.
Alors, bon, on avait quelques pistes quand même. Effectivement, on se disait, la structure des plumes est différente. Vous avez sur les plumes des chouettes et des hiboux ces espèces de petites extrémités, ces sortes de duvet qui va se retrouver notamment sur le pourtour de la plume, qui va la rendre très très duveteuse, même sur les primaires, sur les plumes de vol, elle va être très très douce comparée à la plume d'un rapace lambda, j'ai envie de dire. Mais on savait pas trop comment ça fonctionnait tout ça. Et cette équipe japonaise a décidé de s'y pencher, notamment parce qu'ils ont l'intention d'utiliser ces plumes de chouettes et des hiboux et leur modèle donc anatomique pour développer des nouvelles manières de voler sans faire de bruit avec les constructions humaines, que ce soit des avions ou d'autres choses.
Fantastique. Ils avaient déjà utilisé les plumes, alors je ne sais plus si c'est les plumes, mais en tout cas le rapace nocturne avait déjà été utilisé pour le Shinkansen. On parle du martin pêcheur, à juste titre avec le fameux long nez du train, mais le manchot Adélie pour sa façon de glisser sur la glace et le rapace nocturne pour le silence, je crois, de je ne sais plus comment s'appelle le câble qui relie, je le savais, le pantographe, voilà, le pantographe pour éviter que ce soit trop bruyant. Ils se sont basés aussi sur le rapace nocturne. Voilà.
C'est peut-être pas exactement sur la même technique, cela dit, parce que ça, c'est une nouvelle recherche qui est sortie cette année, donc je pense que c'est tout nouveau, pour le coup.
Ah non, non, clairement pas, je pense pas que ce soit la même. Hein.
Mais effectivement, ils s'étaient peut-être basés sur, sur plus ou moins la texture, à la rigueur de la plume, peut-être je suis pas sûre, faudra regarder.
Je sais plus du tout.
Et du coup, là, ils sont basés donc, sur ces petites micro-petites franges qu'on va retrouver à l'arrière des plumes et du coup à l'arrière de l'aile de l'oiseau en plein vol. Et ils ont fait plusieurs modèles pour tester, voir si c'était... Parce que dans leur hypothèse, c'était ces petites franges qui leur permettaient donc de réduire le bruit du vol. Donc ils ont fait plusieurs modèles. Ils ont fait des modèles où on avait ces franges qui étaient à l'arrière de l'aile et des modèles où c'est exactement la même forme d'aile mais sans les petites franges à l'arrière. Et ils ont essayé de soumettre ces modèles à différentes pressions de vent, des conditions de vol un peu différentes, voir comment ça réagissait en fonction de la manière dont on l'orientait. Et ils ont trouvé qu'en fait, ces petites franges à l'arrière de l'aile, qui sont donc dues aux franges qui assurent les plumes elles-mêmes, eh ben, elles aident à réduire ce qu'on va appeler, alors attends que je retrouve mon vocabulaire parce que moi je fais pas de physique hein, de base, ce qu'on va appeler le bord de fuite sur l'aile d'un avion, oups pardon,
ah, oui.
le bord de fuite donc sur l'aile de l'avion c'est donc le bout de l'aile en quelque sorte, l'endroit qui est généralement le plus fin qui va donc être à l'arrière de cette aile. Et le bord de fuite donc, de l'aile de l'oiseau, ils ont comparé les deux, et sur ce bord de fuite, donc sur l'oiseau, vous avez les franges là. Et au niveau du bord de fuite, lorsque l'oiseau vole, ou lorsque l'avion vole aussi hein, d'ailleurs, vous allez avoir la production de ce qu'on va appeler des vortex, qui vont être donc des vortex du bout de l'aile en quelque sorte, qui vont se créer lorsque l'aile va rentrer dans le vent, lorsque l'avion va progresser dans le ciel, ou lorsque l'oiseau va battre des ailes aussi. Et ces vortex, le problème, c'est que c'est quelque chose qui va vous ralentir, en fait. Vous imaginez un petit tourbillon, en quelque sorte, qui va se créer au bout de l'aile. Et comme un tourbillon dans l'eau, bah, ça va vous attirer vers lui. Donc, en fait, l'avion essaie de progresser vers l'avant, mais vous avez ce tourbillon qui va l'attirer vers l'arrière, en même temps. Donc, ça, vous allez vous dépenser plus de carburant pour essayer d'avancer, alors qu'il y a ce vortex qui vous attire un peu vers l'arrière. Donc le but, en fait, de toutes les constructions d'avions dernièrement, c'est de réduire au maximum ces vortex qu'on va avoir à l'arrière des ailes pour essayer bah, de maximiser l'utilisation de carburant et de maximiser la progression de l'avion dans le ciel. Et c'est pour ça qu'on cherche notamment des nouvelles formes d'ailes. Et donc, en s'intéressant à ces franges sur l'arrière de l'aile de l'oiseau, bah, ils avaient peut-être dans l'idée d'améliorer un peu tout ça. Et il se trouve, après les tests, que lorsque on met des franges sur ce bord de fuite, du moins les petites franges, les toutes petites franges qu'on a sur les ailes d'oiseaux, très très fines, hein, et ben on va limiter la formation des vortex. Donc en fait, on va non seulement, parce que les vortex, bon, ça vous le ralentit, mais aussi, ça va aussi faire un peu de bruit. C'est aussi ce qui va créer pas mal de bruit. Donc, les petites plumes vont à la fois limiter le bruit en limitant ces vortex, mais elles vont aussi permettre de faire avancer un petit peu plus facilement l'oiseau dans le ciel au final et de limiter la consommation d'énergie en quelque sorte pour qu'il avance. Donc c'est tout petit truc, c'est vraiment minuscule. Hein. Si vous regardez une plume de grand-duc, une plume de chouette effraie, n'importe, vous verrez ce petit bord qui est tout doux, tout... avec des comme s'il y avait des toutes mini plumules au bout de la plume, hein, c'est vraiment très très doux, très très fin. Rien que ce mini truc au bout de l'aile, et ben en fait ça vous permet de réduire notablement le bruit et les petits vortex qui se créent normalement lors de la pénétration de l'aile dans l'air, ce qui est quand même pas rien. Donc rien qu'un mini détail comme ça, et ben ça vous donne un vol silencieux et vachement plus efficace. Incroyable.
Incroyable. Incroyable.
Donc voilà.
J'ai pas grand chose de plus à dire.
Ah, c'est.
J'ai pas grand chose de plus à dire. C'est.
Ah, j'ai trouvé l'étude super intéressante.
J'avais vu un documentaire justement où ils étudiaient le vol, ils montraient ces vortex qui se formaient sur les côtés de l'aile.
C'est ça.
Qui étaient les turbulences de l'air finalement.
Exactement.
Une des meilleures façons, je trouve, de voir un peu comment fonctionnent ces vortex. Alors évidemment, il faut être intéressé. C'est par rapport au sport et par rapport à la Formule 1. On a la chance d'avoir des voitures qui vont hyper vite. On a la chance d'avoir une aérodynamique qui est très travaillée. Et sur les bords de fuite des ailerons arrière, vous pouvez voir des vortex se former. Et je vous invite à aller voir sur Internet. Vous avez sans doute des ralentis qui vous montrent ces vortex en action. C'est exactement les mêmes vortex qui se forment, sauf que les Formule 1 ne vont pas chasser des mammifères ou voler dans les arbres. Ça se saurait.
Non, j'en ai pas vu percher dernièrement.
non plus. Ou alors, ça s'appelle un accident, mais...
Vaut mieux pas. Généralement, c'est qu'ils ne sont pas en forme dans ces cas-là.
Ah, c'est... Mais bon, voilà. Mais non, mais c'est hyper intéressant de voir à quel point la nature est particulièrement intéressante pour... Comment dire,
Pour des études comme ça, pour après créer des choses qui vont mimer un peu la nature, pour améliorer notre capacité à voler en l'occurrence, ou faire d'autres choses.
Le biomimétisme,
exactement.
Du coup, le terme qui est utilisé. Oui. As-tu quelque chose à rajouter d'autre les rapaces?
Moi, j'aime bien les chouettes et les hiboux, donc ça me plaît d'en parler, mais bon... c'est peut-être juste moi, mais je les trouve chouettes, ces petites bestioles. Voilà.
Ça m'embête, je n'ai pas de questions.
T'as pas de questions?
Non,
eh ben,
non, j'ai pas de
je t'ai donc cloué le bec, c'est terrible.
Ah, très très bonne. Bravo.
Non, elle était nulle.
non. Du coup, il faut que je trouve un truc pour finir l'épisode avec un truc sur les oiseaux.
Avec panache. Eh oui.
avec panache, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? J'ai rien qui me vient. Donc, du coup, on va souhaiter à tous et à toutes, Non, je ne sais pas comment finir cet épisode, en fait. Tu m'as perturbé.
Excuse-moi. C'est comme c'est venu, voilà.
C'est ça.
Bon, bah,
bref, voilà. C'est la fin de cet épisode qui se finit un peu bizarrement, vous en conviendrez, mais c'est pas très grave. Merci Sophie d'avoir été présente. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Merci à toi. Bon, désolé si j'ai pas expliqué correctement. Non, mais au niveau physique, parce que c'est vrai que n'étant pas physicienne moi-même, c'est
Ah non, mais c'est pas grave non plus.
Un peu plus compliqué, mais voilà. Mais si vous avez des questions ou quoi, évidemment.
Ne nous les posez pas.
Ne nous les posez surtout pas. Non mais on vous mettra les liens de l'article comme d'habitude si vous voulez lire par vous-même. Bon, c'est en anglais. Est-ce que j'en ai un en japonais? Je sais pas s'il y en a qui lisent le japonais parmi vous.
Bah écoute, ça peut se tenter.
Bah, j'ai l'article de directement sur l'université de Chiba, mais ils ont une page en anglais, fort heureusement. J'aurais été bien en peine de faire cet épisode. Voilà.
Bref, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Merci à tous et à toutes d'être de plus en plus nombreux à nous écouter parler d'oiseaux et à nous écouter galérer à parler d'oiseaux également, parce que c'est possible. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur Spotify, sur Deezer, sur les différentes plateformes de téléchargement, de streaming. On est sur YouTube, on est sur Apple Podcast également depuis déjà quelques temps. N'hésitez pas à revisionner d'autres épisodes ou à réécouter d'autres épisodes si ça vous intéresse. À nous suivre sur Twitter, @podcdls. À suivre Le Plumeux également, @leplumeux. Donc Sophie, @leplumeux sur Twitter, qu'on retrouve également sur Contract Science et sur Twitch quand elle a le temps. D'aller faire du stream sur Twitch. C'est parti dans tous les sens, mais cet épisode se termine. Salut à tous, salut à toutes.
Bye bye.